Louez et remerciez soit le Seigneur. Nous le croyons de tout notre cœur. Dieu n'a jamais failli. Il n'a jamais été ridicule. Tout genou fléchira devant lui et toute langue confessera que Jésus-Christ est le Seigneur. Et Seigneur signifie qu'il règne, qu'il a autorité, que sa parole est valable, tout ce qui va avec. Chaque parole est si précieuse qu'on pourrait simplement s'y arrêter, s'y plonger. Mais plus encore, et plus profondément, il y a en nous le désir que chaque parole nous interpelle et puisse être déposée en nous comme une semence. Car tout ce que Dieu fait, il ne le fait pas par l'intermédiaire d'un grand homme, il le fait selon sa parole. Tous les prophètes, même Moïse, qui était-il? Un raté, un meurtrier. Et si cela avait été le cas, mais Dieu avait donné une parole, une promesse, il y était lié. Et lorsque les temps furent accomplis, Dieu ne regarda pas l'homme. Il se souvint de sa parole et de sa promesse. Et il envoya Moïse. Et celui qui voulait se heurter à lui pouvait se heurter, mais celui qui voulait croire pouvait croire. Celui qui voulait sortir pouvait sortir. Celui qui voulait la délivrance pouvait l'avoir. Celui qui voulait la délivrance l'a eu. Celui qui voulait voir des miracles pouvait les voir, car Dieu les faisait. Dieu a toujours agi ainsi et il n'en sera pas autrement maintenant. Notre foi a été si puissamment renforcée par toutes les choses que Dieu a faites. Il ne peut en être autrement. Si nous ne croyons pas, qui croira? Si nous ne remercions pas Dieu, qui le remercie? Qui doit le remercier? Qui doit le faire? Les non-croyants? Ceux qui suivent leur propre voie ou ceux qui se croient tout permis? Non, ils n'ont pas besoin de tout cela. Mais nous, pauvres humains, en qui Dieu a fait de grandes choses, il ne nous reste qu'une chose à faire, le remercier. Et ce de tout notre cœur et de toute notre âme. Nous l'avons déjà souvent dit, comme c'est écrit, quand tout le reste n'existera plus et aura cessé, l'amour de Dieu aura persisté. Et l'amour de Dieu est indépendant de nos œuvres et de nos actes. Avant que nous soyons là, Dieu nous a aimés en Jésus-Christ. Et en lui, il nous a réconciliés avec lui-même et a fait de nous sa propriété. Avant de lire les chroniques, j'aimerais m'arrêter un instant sur la parole contenue dans 1 Corinthiens 15. Ici, tout est résumé, ce dont il s'agit en fait. Du premier Adam, du deuxième Adam, de ce qui est arrivé et de ce qui arrivera. Et nous l'avons lu avec vous, de même que nous avons porté sur nous l'image du terrestre, de même nous porterons sur nous l'image du céleste, 1 Corinthiens 14 et 15, 1 Corinthiens 15, 49. Ça, c'est certain, c'est tout à fait certain. Tout comme nous venons tous après Adam et Ève sur terre, nous serons tous, spirituellement parlant, transformés à l'image de Jésus-Christ. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais il le sera bientôt, 1 Jean 3, 2. Et quand ce jour, ce matin glorieux se lèvera, nous verrons le Seigneur tel qu'il est et nous constaterons que nous sommes devenus semblables à lui. Si quelqu'un considère tout cela, ne serait-ce qu'un instant, cela doit être fait pour lui à jamais, car c'est l'amour que Dieu nous a témoigné, nous a prouvé. Paul a dit autrefois, nous ne nous endormirons pas tous. 1 Corinthiens 15, 51. Il s'est endormi ainsi que tous ceux qui, à qui il prêchait et écrivait autrefois. Mais Dieu a parlé par lui de manière intemporelle, comme par les prophètes. Et ce n'est que lorsque l'heure de Dieu a sonné pour une chose quelconque que la parole s'accomplit. Et il dit ici, au verset 51, nous ne nous endormirons pas tous, mais nous serons tous changés, transformés. Et c'est un fait dont nous sommes plus proches que tous ceux qui ont vécu avant nous. Nous comptons à 100% sur le fait que le Seigneur nous prendra à la maison et que nous sommes la génération où tous ne s'endormiront pas, mais où il y aura encore parmi nous des personnes qui verront la venue du Seigneur. Et le but de nos réunions est avant tout de comprendre ce que Dieu veut faire en ce moment. Notre frère a lu dans la prédication de frère Branham que le temps pour l'épouse a commencé, le dernier réveil. Et il a aussi fait remarquer qu'un homme à Londres a dit aux Américains qui voulaient voir le grand réveil au pays de Galles, il a dit, je suis ce réveil. Ce réveil est en moi. C'était un homme parmi les milliers d'autres. Tout le monde était alors autrefois saisi par l'Esprit de Dieu, chacun. Et cela se produisait à chaque fois que Dieu provoquait un réveil. Les personnes âgées qui ont vécu le réveil au tournant du siècle, dont mon propre père, ont pu raconter ce que Dieu a fait, comment l'Esprit de Dieu est venu sur les assemblées et comment le Seigneur s'est puissamment manifesté. Mais je crois que toutes les choses qui se sont produites étaient moindres que ce qui va encore se produire. Dieu finira par montrer sa puissance et sa gloire à la fin, même si c'est un petit groupe qui reste. Car il faut que quelque chose se produise pour provoquer en nous la foi de l'enlèvement. Et frère Branham dit ainsi aujourd'hui, nous avons à peine assez de foi pour la guérison divine. Et qu'en est-il de la foi que notre corps tout entier peut être changé, transformé, si nous n'avons pas ou ne pouvons pas avoir la foi qu'un membre quelconque de notre corps sera réparé, qu'il soit rendu, pour qu'il guérisse. Comment pourrions-nous alors croire que nous serons changés de la tête aux pieds, de cette mortalité à l'immortalité, de la corruptibilité à l'incorruptibilité? Mais cela, je peux le croire de tout mon cœur. Je ne sais pas pourquoi, mais peut-être parce que c'est destiné à nous. Je n'ai aucune difficulté à le faire, absolument pas. Je crois de tout mon cœur ce qui est écrit ici, qu'au son de la dernière trompette, nous serons changés. 1 Corinthiens 15, 52. Le Seigneur descendra et les morts en Christ ressusciteront. 1 Thessaloniciens 4:16. Oui, si les morts ressuscitent, pourquoi ne puis-je pas être changé en tant que vivant moi? Si Dieu apporte alors la preuve qu'il a vaincu la mort, qu'il a triomphé de l'enfer et que ces hommes qui lui appartiennent ne peuvent être retenus ni par la mort ni par l'enfer, pourquoi la corruptibilité me retiendrait-elle? Après tout, je suis destiné à l'éternité. Et parce que je suis destiné à l'éternité, tout ce qui est nécessaire pour passer du temps à l'éternité doit se produire en moi et en moi-même. L'évangile est toujours un message de joie, n'est-ce pas? Un message glorieux, un message d'amour et de grâce de Dieu pour tous ceux qui le reçoivent et qui y associent la foi. Il est encore écrit ici, 1 Corinthiens 15, 53, « Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. » Cela est clair pour nous tous. Ce n'est pas ainsi que nous pourrions entrer dans la gloire avec, en chair et en sang. Non, ce ne sera pas possible. Nous devons être transformés et changés. Il est ici dit cela clairement que la mort a été engloutie dans la victoire. Mort, où est ta victoire? Mort, où est ton aiguillon? Grâce soit rendue à Dieu. Remercié soit Dieu qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Mais il ne reste que cette phrase. Deuxième partie du verset 56. 1 Corinthiens 15, la deuxième partie du verset 56. Or, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la force du péché, c'est la loi. Dieu a pourtant donné la loi pour pouvoir nous condamner légitimement, toi et moi. Et sa loi a le pouvoir et la force de nous condamner légitimement. Et sa loi a ce pouvoir. Mais sa grâce a légitimement le pouvoir de nous faire passer, de nous faire sortir de la condamnation, de briser la prison et de dire, j'ai tout expié, j'ai pris votre place, vous êtes rachetés, délivrés. Lisons 2 Chroniques 14 maintenant. Pour moi, cette parole est une signification particulière, a une signification particulière aujourd'hui. J'ai beaucoup cherché pour trouver le passage biblique qui parlait à mon cœur autrefois, et quand je l'ai trouvé hier, mon cœur s'est réjoui. C'était presque comme chercher une épingle dans une botte de paille. Mais quand on la trouve, la joie est d'autant plus grande. J'avais déjà demandé si quelqu'un savait où se trouvait la parole 2 Chroniques 14, la deuxième partie du verset 6. 2 Chroniques chapitre 14, la deuxième partie du verset 6. Ils se mirent donc aux constructions et les exécutèrent avec bonheur. Ils se mirent donc aux constructions et les exécutèrent avec bonheur. Je n'oublierai jamais ce jour de ma vie. Nous avions presque terminé le travail brut de la première construction. Et je vais d'ici à là, et frère Schmidt de là-bas à ici, à peu près au milieu, nous nous sommes serrés la main, nous avons dit bonsoir, et il a dit, frère Franck, la construction suffit à peine pour la moitié des visiteurs. Il est parti de son côté en disant cela et moi du mien. Mais ce qu'il a dit a commencé à travailler en moi. Et peu de temps après, j'ai présenté cela au Seigneur dans la prière. Et j'ai dit, « Oh Dieu, as-tu quelque chose à me dire? Si oui, dis-le-moi. » Et vous savez, je ne crois pas que la Bible soit un livre d'oracle que l'on peut ouvrir si joliment et qui nous permet de toujours lire et savoir la bonne chose. Je ne crois pas que la Bible soit un livre d'hasard, mais je crois que Dieu peut parler à travers elle. Je le crois de tout mon cœur. Et j'ai tout dit au Seigneur avec foi et comme un enfant. Même ça, parce qu'il vient de dire que cela ne suffit pas pour la moitié de ceux qui viendront. Cela m'a poursuivi ainsi. Et j'ai dit, Seigneur, les plans sont là. On pourrait faire une deuxième construction sans nouveau dessin, sans calcul statique, etc. Beaucoup de frais pourraient être épargnés. Et j'ai dit, Seigneur, si c'est possible, c'est maintenant, en une seule fois, pas dans quelques années plus tard. Commencer à nouveau. Et vous savez comment on s'épanche ainsi, on ouvre son cœur, car de telles décisions sont d'une grande portée. Qu'est-ce qui est lié à tout cela? Plus d'un demi-million de marques, et cela n'aurait pas été la moindre des choses. Il y avait quand même beaucoup de choses en jeu. Mais je n'oublierai pas non plus le jour où j'étais à genoux de tout mon cœur et où j'ai dit, « Oh Dieu, si tu veux vraiment que nous construisions deux maisons au lieu d'une, tu dois me le faire savoir. » Et je vous le dis, j'ai ouvert la Bible sans avoir à tourner une seule page. Et mes yeux se sont posés sur cette première ligne. Ils se mirent donc aux constructions, pas à la construction, mais aux constructions au pluriel, et les exécutèrent avec bonheur. Et moi aussi, j'étais heureux à ce moment-là. Je savais que c'était la réponse de Dieu pour moi, et j'ai ensuite agi en conséquence. Si nous devions énumérer ici toutes les conduites de Dieu, nous avons un grand nombre de conduites directes du Saint-Esprit et de ce que Dieu a dit et aussi confirmé. Lisons le verset 10 qui dit ceci. Asa invoqua le Seigneur son Dieu et pria, Seigneur, pour aider, il n'y a pas de différence chez toi entre le fort et le faible. Sauve-nous donc, Seigneur notre Dieu, car c'est en toi que nous plaçons notre confiance. Et c'est en ton nom que nous sommes sortis contre cette force supérieure. Tu es le Seigneur, notre Dieu. Aucun homme ne pourra s'affirmer face à toi. Jusqu'ici, cette parole. Asa a invoqué le nom du Seigneur, son Dieu. Il a prié. Il savait qu'un homme qui se sente fort ou faible, qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que le fort? Qu'est-ce que le faible? Les deux ne sont rien. C'est de Dieu seul que vient notre aide. Lui seul peut aider le faible et le fort se rend compte qu'il a lui aussi besoin de son aide. L'homme qui peut s'aider lui-même, Dieu ne peut pas l'aider pour toujours. Nous dépendons de l'aide de Dieu. Et tant mieux pour nous si nous sommes faibles. Paul dit à un endroit, 2 Corinthiens 12, 9, si je suis faible, Dieu est fort. Et donc, si je me glorifie de mes faiblesses. C'est ce que dit un grand homme de Dieu, l'apôtre Paul. Donc, au fond, nous sommes tous au même niveau. Personne ne peut s'aider lui-même et personne ne peut aider l'autre. Même si, sur le moment, nous nous sentons peut-être un peu plus forts que notre frère ou notre sœur, au fond, nous sommes tous aussi faibles et aussi forts. Avec Dieu, il n'y a pas de différence que l'on soit faible ou fort. Verset 10. Aide-nous donc, Seigneur, notre Dieu, car c'est en toi que nous mettons notre confiance. Et c'est en ton nom, non pas avec notre force, non pas notre équipement, notre armure, non pas nos soldats, notre armée, mais nous mettons, verset 10, notre confiance en toi. Et en ton nom, nous sommes sortis contre cette force supérieure. C'est une combinaison merveilleuse. Si nous mettons notre confiance dans le Seigneur, mais qu'ensuite nous ne restons pas debout ou assis, mais que nous sortons, que nous donnons à Dieu la possibilité de confirmer sa parole, pas seulement d'écouter sa parole, mais de nous lever, de sortir sans avoir peur, parce que nous avons mis notre confiance dans le Seigneur. Nous avons parlé hier du fait que Pierre a été saisi par la main du Seigneur lorsqu'il a chuté. Mais que s'est-il passé avant? Avant, il avait pourtant mis sa confiance dans la parole du Seigneur. Et il a dit, « Veux-tu que je vienne à toi ?» Matthieu 14, 28. N'était-ce pas quelque chose de merveilleux? Dis-moi de venir à toi, de venir vers toi. Et l'homme descend de la barque. Soyez tout à fait honnête. Notre jambe serait un peu lente, puisque si belle dans le bateau, là-dedans, tout allait bien. Mais si on avait regardé les vagues et l'eau, et si l'on avait pensé qu'on allait couler comme le Polonais dit, Narcisko Kotna, qu'on allait couler comme une hache, ça n'aurait pas été facile. Nous lisons aujourd'hui les histoires et nous en étonnons. Mais quelles sont les leçons qu'elles contiennent? Un homme devait en principe faire abstraction de tout ce qui s'y opposait sur terre, terrestrement, afin de pouvoir obéir aveuglément à la voix de son Seigneur. S'il avait réfléchi à un seul instant sur le plan terrestre et s'il avait dit, « Mon Dieu, je vais être trempé, je vais couler », il n'y aurait pas eu de problème. Mais pouvez-vous imaginer la chose? Rien du tout. Il n'aurait même pas demandé au Seigneur de venir à lui. Mais ici, il dit, « Tu me fais venir à toi. » Alléluia, gloire à Dieu. « Tu me fais venir à toi sur ta parole. » Et c'est arrivé. Et il est parti. Le fait qu'il ait sombré par la suite n'avait qu'un seul but, pour que nous reconnaissions que le Seigneur est si proche de ceux qui ont osé faire le premier pas. Et cela, sur sa parole, à sa parole. Même s'il coule, il ne se noie jamais. Mais il sera toujours assez proche pour les saisir et les tirer de là. Ne vous inquiétez pas. Après tout, toutes ces choses sont arrivées pour que nous recevions des instructions, que nous soyons fortifiés dans la foi et que nous mettions notre confiance en notre Dieu, comme il est écrit ici, verset 10, « C'est en ton nom que nous sommes sortis contre cette puissance. » Tu es, toi le Seigneur, tu es notre Dieu. Toi, Seigneur, tu es notre Dieu. N'en est-il pas de même pour nous? Nous mettons pourtant notre confiance dans le Seigneur, en Dieu le Seigneur, et nous disons « aide-nous ». Nous ne sommes pas sûrs de nous-mêmes, mais nous dépendons de lui. « Aide-nous, car tu es le Seigneur, notre Dieu. » C'est en toi que nous plaçons notre confiance. Et celui qui lui fait confiance ne peut pas être confondu. C'est impossible. Avant que sa parole ne puisse me tromper, le ciel doit s'écrouler. Et c'est en ton nom que nous sommes sortis contre cette force supérieure. Bien-aimés, chaque fois que les enfants d'Israël ont pris conscience qu'ils étaient le peuple de Dieu, chaque fois qu'ils en ont pris conscience et qu'ils se sont tournés vers Dieu, il a témoigné parmi eux, a confirmé sa parole et les a aidés. En tant qu'Église du Nouveau Testament, nous devons nous souvenir et prendre pleinement conscience que nous sommes le peuple de Dieu, la foule rachetée par le sang. Et même s'il s'agit d'une force supérieure à la nôtre, Ce n'est pas toi et moi qui comptons, mais le fait que nous prenions conscience de qui nous sommes et que nous parlions à Dieu et disons « Aide-nous, Seigneur, car tu es notre Dieu. » Mais que nous ne restions pas assis sans rien faire, sinon la foi est sans œuvre. Et la foi sans les œuvres est morte en elle-même. Jacques 2, 17, et des fois mortes, la foi morte peut se laisser enterrer. Et nous avec elle, nous devons oser prendre Dieu par sa parole, à sa parole. Nous n'avons pourtant aucune responsabilité. C'est Dieu qui a pris la responsabilité au moment où il a parlé. De quoi devrions-nous avoir peur alors? Est-ce que je peux me ridiculiser? Ai-je une quelconque responsabilité à ce moment-là? Non. Je n'ai qu'à croire Dieu et à lui faire confiance. Il fait le reste dans sa toute puissance et son amour. Verset 10, tu es le Seigneur notre Dieu. Qu'aucun homme ne s'affirme face à toi. Pensez-vous qu'il y ait un seul homme à qui Dieu donnerait raison, qui pourrait venir le trouver et lui dire, Seigneur, voilà ce qu'il en est avec Dieu. Tout le monde a tort. Et il fait dire par Paul, dans Romains 3 au verset 4, tout homme est un menteur et Dieu seul demeure véridique, demeure vrai, demeure véritable. Et nous pouvons nous fier à ce Dieu véridique, à ce Dieu véritable et vrai, et ce qu'il a dit à et à son nom, à ce qu'il a dit et nous fier à son nom. Et nous savons qu'il est fidèle à tout ce qu'il a dit. Maintenant, imaginez, j'espère que vous n'avez pas encore lu le verset 11. Imaginez ce qui est écrit ici. Alors, le Seigneur frappa les couchites. Ceux qui avaient mis leur confiance en Dieu purent regarder. Tout d'un coup, leur combat était combattu. Déjà, c'était quelqu'un d'autre qui menait la bataille. Ils avaient mis leur confiance en Dieu. Il est dit ici, alors le Seigneur frappa les couchites, de sorte qu'ils prirent la fuite devant Asa et les Judéens. Ce n'est pas Asa, ni son capitaine, ni son sergent, personne. Le Seigneur est descendu lui-même et a battu l'armée de l'ennemi. Asa et tous ceux qui avaient mis leur confiance avec lui dans Dieu le Seigneur, en Dieu le Seigneur, ne les voyaient plus que de dos, les ennemis. Et la plupart était mort. Je lis le verset entier et continue. Verset 11. Le Seigneur frappa les couchites et ils prirent la fuite devant Asa et les Judéens. Verset 12. Asa et l'armée qui était avec lui les poursuivirent jusqu'à Guérar. Et il tomba tant de couchites qu'aucun d'eux n'eut la vie sauve. Ni Asa, ni aucun membre de son armée n'ont eu à porter la main sur un seul d'entre eux. Le Seigneur les a battus. Et tandis qu'ils prenaient la fuite, ils sont tombés les uns après les autres comme frappés par un coup. Ceux qui ont fait confiance à Dieu ont vu l'ennemi vaincu et ont fait l'expérience de la puissance de Dieu. C'est ce que nous devons saisir par la foi. Notre combat a été déjà mené. La puissance de l'ennemi est vaincue. Et si nous pouvons l'accepter avec foi, nous ne remettrons plus jamais en question cette victoire divine. Et demanderont à Dieu de toujours nous donner la confiance en lui. La formulation est ici très étrange. Il est écrit au verset 12, « Et il tomba un si grand nombre de couchites qu'aucun d'entre eux n'eut la vie sauve. » Alors tous, oui, sauf si tant de gens sont tombés, qu'il n'en reste aucun. Combien sont tombés alors? Alors, ils sont tous tombés. Oh, gloire à Dieu. Toutes ces histoires de l'Ancien Testament doivent nous montrer dans le Nouveau Testament que Dieu a mené notre combat déjà et qu'aucun de ses ennemis et de nos ennemis, car croyez-moi, c'est quand même l'ennemi commun. L'ennemi de Dieu est l'ennemi de son peuple et l'ennemi de son peuple est l'ennemi de Dieu. Il n'en est pas resté un seul, mais ils ont été complètement détruits devant le Seigneur et son armée. Devant le Seigneur et son armée. Son armée était le peuple de Dieu. Bien-aimés, c'est une parole tout à fait merveilleuse. Oh, si nous lisons ensuite le chapitre 15, il est dit au premier verset, « L'Esprit de Dieu vint sur Azaria, fils d'Obed. » Verset 2, « De sorte qu'il sortit, se présenta devant Asa et lui dit, « Écoutez-moi, Asa, et vous tous judéens et benjamites, le Seigneur est avec vous tant que vous vous attachez à lui. Si vous le cherchez, il se laissera trouver par vous. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera aussi. » Quelle parole vraie pour tous les temps. Le Seigneur, notre Dieu, est avec nous tant que nous nous attachons à lui. Et nous ne pouvons pas faire autrement que de nous tenir à lui et à sa parole jusqu'à la fin. Et nous ne sommes pas les seuls à le tenir. Il nous tient aussi. Mais si nous l'abandonnons, mais si vous l'abandonnez, lui aussi vous abandonnera. Oh, si nous pouvions nous attacher à lui et à sa parole de tout notre cœur et de toute notre âme, sachant qu'il nous a amenés jusqu'ici et qu'il nous conduira, guidera jusqu'à la fin, traversant tout ce qui peut encore se trouver sur ce chemin et que nous rencontrerons jusqu'à ce que nous voyons le jour dont nous avons déjà lu qu'il reviendra, que le Seigneur reviendra, que le Seigneur donnera la vie à nos corps mortels et les transformera, les changera. Combien de fois avons-nous dit cela? Celui qui veut vivre la transformation, le changement de son corps en ce jour-là, doit déjà maintenant avoir vécu auparavant la transformation, le changement de son âme. C'est une parole vraie. Nous devrions toujours nous souvenir de cette parole. D'un point de vue terrestre, les corps des croyants et des non-croyants sont absolument identiques. L'un a mal aux dents, l'autre aussi. Chacun doit manger et boire. En principe, en ce qui concerne le domaine terrestre, chaque corps est identique. L'un vieillit, l'autre aussi. Une femme accouche dans la douleur, une autre aussi. Il n'y a absolument aucune différence du point de vue terrestre entre les repas, entre les corps, entre n'importe quelle chose. Les corps sont tous égaux. Qu'est-ce qui fera cette grande différence le jour où le Seigneur viendra? Le jour où le Seigneur viendra, c'est que nous sommes devenus croyants, que la parole de Dieu est en nous, que sa puissance, son esprit est entré dans notre âme et qu'alors nos corps mortels peuvent être changés, transformés. Nous ne regardons pas à l'enveloppe terrestre, nous savons très bien que nous attendons tous la rédemption de notre corps. Mais malheur à l'homme qu'il attend sans que son âme, sans que sa vie ait été changée, transformée. Cher cœur, laissons-nous le dire l'un à l'autre et crions-le. Que Dieu transforme, change notre âme. Qu'il transforme, change notre vie. Qu'il fasse toutes choses nouvelles, vraiment. Toutes choses nouvelles. Comme il est écrit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. De Corinthiens 5, 17, nous continuerons quand même à manger et à boire, étant devenus une nouvelle créature. Nous continuerons quand même à porter notre corps terrestre. Il y en a, en effet, qui, alors qu'ils sont encore sur terre, voudraient déjà avoir un corps céleste. Ils y travaillent depuis si longtemps à leur guise et ils n'y parviennent toujours pas. Dieu a déjà pourvu à tout, fondamentalement à tout, déjà. Le faible et le fort sont à nouveau sur un pied d'égalité. Et Dieu les aidera tous les deux. Et lorsque le jour du Seigneur viendra et qu'il nous appellera, à la maison, sa parole toute puissante suffira. Déjà le son de la trompette, la voix de l'archange et tout ce que Dieu a promis doivent s'accomplir et s'accompliront en ce jour-là. Lorsque vous serez saisis par Dieu, ne regardez pas vos corps terrestres, ni tel ou tel bobo, tout cela est éphémère. Regardez au Seigneur qui a vaincu la mort, qui est ressuscité et nous sommes pardonnés en lui. Nous avons reçu la grâce en lui. Nous avons du point de vue de Dieu déjà été transférés avec lui comme nous l'avons contemplé le week-end dernier dans le monde céleste. Dans les lieux célestes. Celui qui croit cela, qui place sa confiance en lui, qui a commencé au nom du Seigneur et qui continue et persévère dans cette voie, ne sera pas déçu à la fin, mais devra dire « Dieu est fidèle et accomplit tout ce qu'il a promis. » Dans l'Ancien Testament, Dieu a dit « Mort, je serai pour toi une peste. Enfer, je serai pour toi une épidémie. » Osée 13, 14, tradition Luther. De quoi s'agissait-il? Par l'intermédiaire du prophète, Dieu l'avait prononcé et beaucoup de temps s'est écoulé. Mais quand le jour est arrivé, tout l'enfer a tremblé. La mort et le diable ont perdu la parole. Le Seigneur était là, le vainqueur de Golgotha. Et je me souviens toujours avec tant de plaisir de cette déclaration de Frère Branham lorsqu'il a dit que Christ avait été suspendu à la croix selon son corps, puis déposé dans le tombeau. Mais en esprit, il est bien descendu. Et le diable a dit, « Enfin, je te tiens !» Vous savez, et vous connaissez la prédication comme il a un peu décrit cela. Et alors, notre Seigneur a prononcé la parole toute puissante. Satan, j'ai racheté mon peuple, libère-les, donne-moi la clé. Et vous savez, c'est quelque chose de très majestueux. Le diable avait pourtant pris tout le monde. Qui n'avait-il pas pris? Et ils étaient là en prison, là-bas. Mais maintenant, celui qui a tenu la prison en captivité est venu libérer ceux qui s'y trouvaient. Éphésiens 4, 8. Pour les libérer. Et ça, c'est ce qui s'est passé. Vous pouvez le lire dans Éphésiens 4, du verset 8. Celui qui est descendu est aussi celui qui est monté. Et il est descendu dans les lieux les plus bas pour en faire sortir les captifs. Pour en faire sortir les captifs. Et c'est ce qu'il a fait. La rédemption est une œuvre majestueuse de Dieu. Et nous y sommes tous inclus. Notre Seigneur a mené le combat. Pas un ennemi ne lui a échappé. Personne n'a pu se cacher quelque part pour que le Seigneur ne le voie pas et ne le saisisse pas. Toute la puissance de Satan a été vaincue, est vaincue, et nous sommes libres par la grâce de notre Dieu. La rédemption, je le répète, est une œuvre majestueuse de notre Dieu. Et toi et moi, nous pouvons faire partie des rachetés. Lorsque le compositeur de chant dit « Je suis racheté, je peux m'en glorifier, racheté par le sang du Sauveur », nous comprenons, nous chantons avec lui. Nous ne chantons pas après lui, mais nous chantons avec lui. Nous ne répétons pas seulement les choses que d'autres ont dites, mais ils ont parlé notre langue et nous parlons la leur, c'est-à-dire la langue de l'Esprit, en donnant raison à Dieu et en disant « Seigneur, c'est ainsi ». Et que disait alors autrefois Job, « Quand ce corps sera tout rongé, je verrai quand même Dieu, car il sera sur la terre à la fin des jours, et je le verrai. » Job 19, 25, 26, il a dit aussi en effet, « Je sais que mon Rédempteur vit, ou alors est vivant. » Cher cœur, nous le savons tous, notre Rédempteur est vivant. Et vous savez qu'un des grands chantres de la Réformation a dit, « Jésus est vivant, et moi aussi avec lui, mort où sont donc tes terreurs ?» Lui, il est vivant, et il me ressuscitera aussi d'entre les morts. Tout cela, ce sont déjà des faits divins. La mort est vaincue, l'enfer est vaincu, Satan a perdu son droit. Bien sûr, comme nous l'avons lu, s'accomplira alors dans sa totalité, en ce jour-là, la parole. La mort a été engloutie dans la victoire. Alors la mort ne sera plus, comme il est dit dans l'Apocalypse, et il n'y aura plus ni deuil ni cri, mais de la joie pour toute éternité. Ici sur terre, nous avons encore des chagrins, du chagrin, nous avons de la souffrance, nous avons de la douleur, la mort spirituelle et terrestre et physique est encore là. Mais en ce matin glorieux, tout sera laissé derrière nous. Derrière nous. J'ai eu un avant-goût de cette gloire le 1er janvier 1981. J'ai eu un avant-goût de cette gloire. Bien-aimé, tout est vrai. Tout est vrai. Oh, si nous pouvions faire confiance à Dieu de façon toute nouvelle, sans limite, car ce n'est pas nous, mais lui qui l'a fait. Et pourtant, nous ne sommes que ceux qui le reçoivent dans la foi. Pourquoi ne pas dire, comme l'homme de Dieu l'a dit autrefois, « Seigneur, pour aider, il n'y a pas pour toi de différence entre le fort, et le faible, alors aide-nous. » N'est-ce pas là une belle prière? N'est-ce pas là parler à Dieu? Vous savez, quand on lit les prières de Frère Branham, c'était une conversation avec Dieu. Une conversation avec Dieu. Il a parlé à Dieu de manière simple, sans complication. Et nous aussi, nous pouvons faire de même. Aide-nous donc, Seigneur, notre Dieu, car c'est en toi que nous mettons notre confiance et c'est en ton nom que nous sommes sortis contre cette force supérieure. N'est-ce pas là ton témoignage et le mien? N'est-ce pas ce que nous disons et vivons tous de tout cœur par la grâce de Dieu? C'est en ton nom que nous sommes sortis. C'est en toi que nous mettons notre confiance. C'est toi qui nous sauves, car tu es le Seigneur, notre Dieu. Et puis il y a cette démonstration. Aucun homme ne doit pouvoir s'affirmer face à toi. Qui doit pouvoir se vanter ou s'enorgueillir face à Dieu, personne. Et nous pensons maintenant encore rapidement à la magnifique histoire de David et Goliath. Il s'est vanté, mais cela a vite pris fin. Il y avait là un petit homme, selon le cœur de Dieu. Et il pensait en lui-même, ce Philistin incirconcis, qui lui a donné le droit de se moquer du peuple de Dieu. 1 Samuel 17, 26. Et cela l'a saisi au plus profond de son cœur. Et il a dit, lui aussi, tu viens avec un pectoral et tout. Et tout avec une lance, mais moi je viens au nom du Seigneur, le Dieu d'Israël. Alléluia. 1 Samuel 17, 45. Alléluia. Cela a suffi. C'était suffisant. Et je dois presque rire, sourire. Mais David qui tenait la fondre et la pierre dans ce petit étui en cuir, il aurait pu lancer tout autour et lâcher la chose à volonté, à l'est, à l'ouest, au sud, au nord. Dieu aurait pris cette pierre et l'aurait conduite là où elle devait aller. Vous ne pensez tout de même pas que David s'est placé là, le pied gauche en avant, comme nous l'avons toujours fait, et qu'il a d'abord visé assez longtemps. Et dans un sens et dans l'autre, il n'en a pas eu le temps. Il a fait confiance à Dieu. Ce n'était pas son savoir-faire qui comptait, mais sa confiance en Dieu. Et le Seigneur l'a confirmé. Et il n'a pas eu besoin d'aller chercher une deuxième pierre, ni d'aider. Dieu a fait mouche. Dieu a fait mouche la première fois. Est-ce différent aujourd'hui? N'avons-nous pas affaire aujourd'hui au même Dieu? Au même Dieu de l'Ancien et du Nouveau Testament? C'est certain. Car il est le Dieu de tous les prophètes et de tous les apôtres, le Dieu de son peuple d'Israël et notre Dieu, à savoir le Dieu et le Seigneur de l'Église du Nouveau Testament. Oh, que nous pourrions croire, nous ne ferions plus d'efforts. Nous ferions confiance à Dieu et oserions aller de l'avant en son nom. En son nom. Je nous le dis à nous, frères, serviteurs, allons de l'avant avec foi. Le Seigneur a vaincu tous ses ennemis. Nous ne le rencontrons pourtant plus guère de face. Si nous le prenons bibliquement, nous voyons qu'ils ont pris la fuite et dans leur fuite, ils sont tous tombés. Et que voyons-nous une armée ennemie vaincue? Et qui l'a vaincu? Abraham, Moïse, Paul, Pierre? Non. Le vainqueur de Golgotha, le Seigneur des armées. C'est en référence à lui qu'il est écrit, sans doute dans le psaume 24. Levez-vous, porte antique, et faites entrer le roi de gloire. Psaume 24, 7, 8. Qui est ce roi? Le Seigneur puissant dans le combat. Il a pourtant été vainqueur. Les portes de perles lui étaient ouvertes et elles nous sont ouvertes. Bien-aimés, aujourd'hui, nous voulons remercier notre Dieu pour toute sa fidélité qui restera pour nous incompréhensible jusqu'à la fin. Mais Dieu parle déjà à Moïse. Celui à qui je fais miséricorde, je lui fais miséricorde. Et celui à qui je fais grâce, je lui fais grâce. Notre Dieu, Exode 33, 19. Notre Dieu ne peut jamais nous laisser tomber. Il nous a retirés de la poussière, de la boue, et nous a placés sur un sol plus élevé. Et cela restera ainsi pour toujours. Et même si nous devons passer par certaines profondeurs, que nous soyons forts ou faibles, notre aide à tous vient du Seigneur qui a créé le ciel et la terre. Et nous n'avons pas honte de dire, Seigneur, nous sommes faibles, mais tu es fort. Nous sommes impuissants, tu es tout puissant. Aide-nous. Et nous remarquons déjà qu'il nous a déjà aidés. Mais nous ne devons pas rester assis sans rien faire. Après avoir entendu la parole de Dieu, nous ne devons pas seulement nous lever physiquement pour prier, mais nous élever spirituellement vers Dieu dans la prière et dire, Seigneur, aujourd'hui tu me l'as montré, tu as vaincu, tu as triomphé, tu as tout fait pour nous et tu as réglé tes comptes avec tes ennemis. Lève-toi, Seigneur, et marche devant nous. Et je vous le dis, si nous suivons notre Seigneur dans la foi, nous verrons tous nos ennemis comme vaincus et liquidés à droite et à gauche sur ce chemin de Dieu. Et nous pourrons continuer notre chemin avec Dieu dans la foi, en sa chair et en sa précieuse et sainte parole. Qu'il nous bénisse et nous ouvre quelque chose à l'intérieur. Oh, que nous puissions reconnaître les heures de la visitation divine. Dieu veut nous parler comme un père parle à ses fils ou à ses enfants. Dieu est toujours bien intentionné. Et ce matin encore, le Seigneur est bien intentionné. La dernière trompette retentira à la fin du dernier âge de l'Église. Et tous ceux qui auront entendu et cru le dernier message seront de ceux qui passeront de la mortalité à l'immortalité et de la corruptibilité à l'incorruptibilité. Ensemble, nous serons alors enlevés dans les airs à la rencontre du Seigneur. Quel jour glorieux ce sera, cher cœur. Ce n'est pas une histoire, c'est une réalité divine. Jésus-Christ est vraiment descendu en enfer. Ces jours-ci, j'ai reçu un appel de quelque part et on m'a dit, le frère un tel était ici. Et il a annoncé que Jésus-Christ était l'archange Michel, ou bien alors Michel. J'ai dit, il a menti. Et puis, il a dit que l'enfer n'existe pas. Et j'ai dit, il a menti. Et vous savez comment cela se passe parfois. Les gens prennent les sermons de Frère Branham, n'ont pas de révélation divine et en font quelque chose de terrible. Il y a deux déclarations auxquelles les gens peuvent se référer, mais personne ne peut se tenir sur un pied. S'il y a une déclaration ici et sur un autre sujet, une autre déclaration, alors il faut y ajouter tous les passages bibliques qui font partie de ce sujet. Je voulais simplement dire ceci. L'enfer est une réalité. Car Jésus-Christ, notre Seigneur, y est descendu. Et jusque-là, le paradis était encore en bas. Abraham pouvait le voir et l'autre pouvait regarder par-dessus et voir le pauvre homme, Lazare, dans le sein d'Abraham. Luc 16, 23, le Seigneur ne nous a pas raconté d'histoire. Et quand Pierre dit en esprit, il est descendu dans les lieux les plus bas de la terre, ce n'est pas le tombeau, ce sont les lieux les plus bas de la terre. Pour moi, la parole de Dieu reste la parole de Dieu pour l'éternité. Et tout le reste n'est que mensonge. Nous avons affaire à la réalité et nous en sommes reconnaissants à Dieu. Pour un temps, nous sommes devenus fous à cause de Christ. 1 Corinthiens 4, 10, mais l'heure sonnera certainement où Dieu tournera sa face vers nous et vers beaucoup d'autres pour une bénédiction parce que nous avons persévéré et tenu ferme à la parole de Dieu et que nous n'avons pas couru derrière telle ou telle doctrine qui est vide, mais que nous sommes restés attachés à l'évangile plein et restitué et restauré. Que Dieu nous maintienne, nous affermisse et nous renforce dans cet évangile plein et qu'il nous, dans ce plein évangile, et qu'il nous donne aujourd'hui la possibilité de nous élever dans la foi et la confiance en Dieu et de dire, Seigneur, maintenant je le reconnais, maintenant je peux le saisir dans la foi. Tu as tout fait, tout accompli. Je te suis. Tu as tout pardonné, tout guéri, tout délivré. Tu as vaincu toutes les puissances des ténèbres. Je suis ta propriété. Je n'ai plus affaire qu'à une armée d'ennemis déjà vaincus. Toi, ô Seigneur, tu as pris les devants. Accorde-moi la grâce de te suivre dans la foi. Et Dieu le fera. Loué soit le nom du Seigneur. Loué et exalté soit le nom du Seigneur. Amen. Levons-nous et prions. Ensemble, nous te remercions pour ce service divin, pour ta sainte et précieuse parole. Ô Seigneur, que nous la prenions comme une leçon pour la suite de notre vie, que nous mettions notre confiance en toi, que nous nous levions en ton nom pour aller de l'avant, car nous savons que tu nous précèdes. Seigneur bien-aimé, comme tu es merveilleux, comme ta parole est glorieuse, ô Seigneur, et si nous regardons en arrière, nous pouvons dire, reconnaissez que le Seigneur conduit merveilleusement ses saints, même si cela passe parfois par les profondeurs les plus profondes, par le désespoir et la détresse. Mais à la fin, il y a toujours eu ta victoire et ta puissance manifestée. Seigneur fidèle, nous te remercions de ce que tu continueras à faire du bien à ton peuple. Seigneur fidèle, je te remercie, je te loue, je t'apporte la louange, la gloire et l'adoration et l'honneur. Nous voici, prends-nous, utilise-nous tous, chacun pour sa tâche et à la place que tu nous as assignée. Ô Seigneur bien-aimé, nous te remercions encore une fois pour ta fidélité, Seigneur, pour ta parole révélée, Seigneur, pour le message de ces jours, pour ton serviteur et prophète que tu as envoyé, aussi pour la grâce de rester sobre, d'attendre que ton heure sonne, d'attendre. Oh, nous te remercions pour tout et pour bien plus encore, oh Dieu, que nous pourrions tout énumérer. Seigneur bien-aimé, bénis mes frères, bénis mes sœurs, et comme mon cher frère l'a demandé, fais-nous être unis de telle sorte que tu puisses descendre comme à la Pentecôte avec la puissance du Saint-Esprit. Ô Seigneur, hier et aujourd'hui, j'ai ressenti ta douceur, ta présence, ton amour. Tu es proche de nous. Ta colère s'est apaisée. Ta fureur s'est éloignée. Réconciliation, grâce, salut, bénédiction. Tu te manifestes parmi ton peuple. Nous te louons et nous te remercions. Nous glorifions la puissance de ton sang, de ta parole et de ton esprit. Et nous voulons aller de l'avant, et cela dans la puissance de ton nom, en te suivant. Ô Seigneur, tu étais devant Asa et l'armée, tu marchais, tu as battu tous les ennemis. Personne ne pouvait se vanter, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Seigneur, même avec David. Il ne pouvait pas se vanter, se glorifier. Il savait pourtant qu'il aurait été perdant. Mais tu étais en lui. Oh, comme l'a dit frère Branham, c'était Christ en Moïse, Christ en David. Seigneur, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Sauveur bien-aimé, prends-nous tous, plus que jamais, donne-nous des paroles d'édification entre nous, de consolation au Seigneur en toutes circonstances. Nous te prions aussi pour notre jeune frère qui retourne en République populaire de Pologne. Ô Seigneur, bénis-le et installe-le en bénédiction là-bas. Nous te remercions de le faire au nom de Jésus. Amen.